Bonsoir à tous et bienvenue pour cette 12e émission de Deeply Rooted, la dernière de l'année. On va vous emmener encore une fois aux origines et aux racines du rap US, même des rap US, parce qu'on voilà, on fait visiter un peu le pays et les différentes musicalités de ce courant musical. C'est la dernière de l'année, donc je disais, dans les prochains mois on vous mettra des rediffs, on n'a pas encore déterminé ce que sera exactement, mais on vous tient au courant de toute façon sur nos pages Facebook et les différents réseaux sociaux de l'émission. Lors de la dernière émission justement, on était resté sur le début du hip-hop avec l'arrivée des DJ principalement, donc dans les block parties. On vous avait parlé de principalement DJ Cooler, Grandmaster Flash, Africa Bambaataa et Run-DMC. On vous invite à aller écouter ça en podcast sur Mixcloud par exemple, ou sur aussi les différentes plateformes qui existent. Pour m'accompagner ce soir, comme d'habitude, Joachim est là.
Toujours présent, fidèle au poste, et content de partager encore une fois avant l'été, avant de vous concocter un beau programme encore pour l'année prochaine, une dernière émission de l'année.
Et Momo est également à ma droite.
Ouais, alors moi je suis tout à fait d'accord avec la fin de Game of Thrones, je vous préviens tout de suite, qu'on soit clair sur ce sujet-là. Sinon,
on va arrêter l'émission tout de suite alors.
Toujours OP, toujours content d'être là. Et, ouais,
et donc on enregistre depuis Lyon pour cette émission.
6-9 la trick, 6-9 la trick. Et puis la grosse fournaise.
Voilà, il fait actuellement très très chaud.
Tous complètement attaqués par le soleil dans la journée.
Qui peut nous faire donc un petit sommaire de l'émission? On avait commencé donc à New York, aux origines du hip-hop. De quoi on va parler aujourd'hui?
Bon, en fait, on va prendre totalement la suite de là où on en était resté. C'est-à-dire, en fait, là, on avait parlé à la fois vraiment des origines, et là, on va vraiment parler de la naissance vraiment du hip-hop moderne, enfin plein de choses, plein d'éléments du rap en fait qui vont devenir, qui vont un peu entre guillemets se cristalliser et après vont évoluer dans plein de directions différentes, mais en tout cas certaines bases en tout cas.
Et on va parler un peu technique d'ailleurs.
On va parler notamment technique, ouais.
On va parler des premiers rappeurs techniciens. On s'écoute un premier son avant de se lancer
de Slick Rick.
Qui a un son de Slick Rick, donc Children's Story.
Voilà, gros storytelling, on en parlera tout à l'heure de Slick Rick et très très gros morceau de Children's Story.
Et du storytelling aussi d'ailleurs.
Allez, vous êtes toujours sur Deeply Rooted, on se retrouve tout de suite. De retour après ce son de Slick Rick, Children's Story.
Magnifique.
Toujours aussi bonne ma prononciation. Je trouve que je m'améliore d'émission en émission et ça c'est important. On va vous faire donc un petit rappel d'abord, peut-être Jojo, là on en était resté, parce que vu que là c'est un peu chronologique, que New York ça peut voilà, être en 15 épisodes, mais que...
On a fait une première fournée de deux épisodes. La dernière fois on était resté sur Def Jam, en fait, qui commence à monter un empire, qui va régner sur le rap pendant de nombreuses années, ça a duré quand même vraiment longtemps. Et en gros, avec Def Jam, il y a LL Cool J à la fin, on parlait d'LL Cool J qui a vraiment été aussi un des premiers rappeurs modernes en termes techniques et qui a vraiment implanté le fait que maintenant les rappeurs étaient au centre du truc plutôt que les DJ. Et donc on va maintenant parler des rappeurs modernes. Donc qu'est-ce qu'on entend par rappeur moderne? Il y a plein de choses, il y a le flow, les lyrics, enfin, la virtuosité des textes. Il y a aussi une question de charisme. Je trouve que les rappeurs, la fin des années 80, ce dont on va parler, là, on va parler de sorte de premier âge d'or new-yorkais. Il y a vraiment une sorte de gros charisme des premiers rappeurs.
Peut-être qu'ils travaillent plus leur personnage aussi.
Il y a aussi l'imagerie, tu vois, il y a plein de choses qui sont assez nouvelles et qui implantent vraiment un nouveau style de rap.
Surtout comme les rappeurs supplantent les DJ, tu vois, ils vont prendre une place centrale. Et du coup, tu vas vraiment te focus sur le rappeur solo et le charisme, ça prend son importance. Parce que si tu ressembles à un chiffon, mais que tu rappes bien, bon, ça peut tout le temps forcément passer, tu vois. Donc ouais, le charisme.
Le charisme, ça, les textes, ça change, le contenu des textes va changer.
Ça change sur plusieurs choses.
Il y a le fond, mais il y a surtout la forme, quoi, la virtuosité du texte, les rimes, etc. Quoi,
c'est... Parce que sur le fond, est-ce que c'est... Enfin, moi j'avais cru comprendre qu'il y avait un peu un basculement aussi par rapport aux histoires des guerres de gangs et tout.
Ça va devenir très égo trip, c'est-à-dire ça va devenir... Enfin, très... On va commencer à se vanter dans les textes, etc. Il y a peut-être un peu moins de messages... politisé ou quoi, mais ça va revenir à cette histoire.
Il y a des provocations de texte et tout, mais apparemment il disait que c'était quand même moins, peut-être moins violent, ça se calme un peu au niveau des guerres en tant que telles entre les.
C'est plus des tacles sur le skill, sur le niveau des mecs en face que. autre chose.
Il y a moins de réalité derrière, peut-être, tu vois.
Oui, voilà. Truc,
mais c'est plus une bataille de style. Les mecs, ils se, voilà, ça reste un truc purement technique, une bataille technique, quoi. En gros, il y a plus ce genre de truc. Mais il y a quand même des choses un peu plus sérieuses sur lesquelles je reviendrai aussi tout à l'heure. Il y a aussi le flow. Je sais pas si t'as...
Alors, déjà, définir qu'est-ce que c'est.
Le flow, c'est très simple. Tu vois, enfin, il n'y a pas de définition ultra précise du flow. C'est marrant parce que je savais ce que c'était avant. J'ai enquêté dessus.
Je dis que c'est simple, mais donc il n'y a pas de définition.
Oui, mais de le définir, c'est vrai que c'est vraiment. En fait, c'est la flow, manière c'est dont tu déclames ça, le texte, dont tu. Enfin, c'est le rythme de ton texte, la façon
dont
tu.
Manière, c'est ta diction, la manière dont tu vas articuler, la manière dont. Enfin, la vitesse à laquelle tu vas aller, la puissance que tu peux donner à des mots, parce que tu peux très bien faire genre une rime sur le maïs et le popcorn.
Les accents que tu vas mettre.
Voilà, et la rime, enfin, la line que tu vas lâcher, elle est ultra balèze. Tu vois, il y a des mecs qui font sonner des mots et des phrases beaucoup plus fort que la phrase est en elle-même, tu vois, donc ça va claquer. Donc le flow, en fait, c'est ça, c'est vraiment la manière dont tu vas rapper.
D'accord, donc peut-être à la base,
vivre le texte, quoi.
À la base c'était peut-être plus linéaire, les mecs
ils ont
commencé, ils racontaient, ils blablataient leur truc, et maintenant ils commencent à un peu, ouais...
Enfin, c'est un peu, ils ont déclamé leur texte, quoi.
Oui, et puis c'était un peu mono, monocorde, tu vois, mais genre c'était monoflow, tu vois, si je puis dire, parce qu'en gros il n'y avait pas trop de changement de rythme, de truc, c'était un peu tout le temps le même rythme, tu vois.
Ouais, carrément.
Restait sur la même dynamique, et là, tu vois, c'est vrai que... Là, ce qu'ils ont apporté à la fin des années 80, et à la fin dont on va parler, c'est là où ça a complètement changé, c'est que les mecs ils se permettent des changements de rythme, des trucs, c'est plus imprévisible.
Et le flow, c'est tellement important à mon sens que ça change le cours du rap, et c'est avec le temps, dans l'évolution du rap, de quand ça commençait à maintenant, bah, les flows sont différents, donc ça apporte des vibes différentes.
C'est différent, mais peut-être que ces gens-là ont quand même mis une... Parce qu'il y a, c'est de la technique aussi, donc la technique ça se travaille, donc peut-être que les... Enfin, tu vois ce que je veux dire, les rappeurs d'aujourd'hui, quand ils posent, ils se basent aussi sur des modèles, et ces premiers-là, ils avaient peut-être pas de modèle, ou alors par contre, peut-être dans d'autres courants musicaux, quoi. Parce que la façon de poser sa voix, c'est pas non plus propre au rap...
Oui, complètement. Mais après, c'est les modèles, on les avait déjà un peu évoqués la dernière fois, mais sauf que là, ça se singularise. Enfin, tu vois, ils arrivent à trouver leur originalité dans leur style. Le rap vraiment crée un nouveau truc, tout en évidemment, à chaque fois que tu crées un truc, tu t'inspires forcément de ce qui a été fait avant, donc il va dire les premiers rappeurs, ceux qui étaient en Jamaïque, etc. Enfin, tu vois, et d'autres chanteurs aussi, tu vois, le truc, la façon d'utiliser la voix, ça peut avoir plein de provenances, mais oui, en tout cas. Je sais plus trop où j'en étais, mais...
L'importance du flow fait que, en fait, c'est, même si tu comprends pas les paroles, tu peux quand même kiffer ce que la personne dit, parce qu'elle le dit d'une telle manière. C'est le cas en France, t'as plein de gens en France qui comprennent pas les lyrics, les paroles des rappeurs, et ça les empêche pas d'être pris dans la vibe de la chanson, parce que...
Certains rappeurs cherchent pas vraiment à être compris aussi, je
crois. Après, il y a l'effet pervers qui est que un rappeur peut avoir du succès alors que...
Ça peut être de la branlette technique aussi, oui.
Oui, voilà. Alors que voilà, et après par contre non, enfin par rapport à ça, c'est que les lyrics, comme tu dis, enfin le flow marche aussi avec les textes, donc par exemple, j'en sais rien, sur des jeux de mots, des choses comme ça, le fait de pas comprendre les textes peut quand même priver d'une partie du...
Oui, bien sûr.
Parce que je veux dire, comme tu dis, accentuer sur un début de phrase, un fin de phrase, si tu comprends pas les textes, tu perds quand même une partie...
C'est tout l'art aussi des bons rappeurs, c'est justement d'arriver à te faire en sorte qu'avec leur diction, leur prononciation et la façon dont ils déclament leurs textes, même si c'est ultra compliqué... que ça reste accessible, tu vois. Enfin, c'est en tout cas un bon rappeur, pour moi c'est ça, si c'est juste un mec qui délite des mots incompréhensibles et que si tu vas chercher et regarder de près, tu vas dire waouh, c'est super bien écrit, mais quand t'écoutes, t'entends absolument rien.
Et même si c'est l'heure, quoi, franchement.
Oui, après il y a des rappeurs aujourd'hui qui baragouinent volontairement, qui chuchotent quand il y a...
Aujourd'hui c'est encore autre chose, pour le moment on n'est pas encore là-dessus, mais aujourd'hui, oui, après c'est parti tellement dans plein de directions qu'il y a un peu tout et n'importe quoi, mais...
Mais les nouveaux rappeurs modernes de l'époque, en tout cas, l'avènement du rappeur moderne, c'est ça, c'est une alliance entre l'image, les textes, le flow, qui te donne clairement les caractéristiques. Tu peux, en fait, le propre du flow aussi, c'est de reconnaître un mec par son flow. Tu l'entends à la radio, il n'y a pas que la voix, tu fais « Ah, mais c'est lui qui rappe, en fait, tu reconnais direct. »
Ouais. Du coup, peut-être, les sons, on vous invite à réécouter, du coup, l'épisode précédent, si c'est pas fait, pour avoir un point de comparaison. On fait quoi? On s'écoute un premier son, justement, un mec technique.
Un des premiers rappeurs très techniques qui a influencé énormément de rappeurs derrière, qui est vraiment une légende, quoi. C'est Big Daddy Kane, avec Ain't No Half Stepping, c'est son plus gros tube, et là, il y a du niveau, quoi.
De retour dans Deeply Rooted pour cette 12e émission, la dernière de l'année. Je suis toujours en compagnie de Joachim et de Momo. On vient de s'écouter Big Daddy Kane avec Ain't No Elf Step In.
Tout à fait.
Et on va parler maintenant du Juice Crew.
Exactement.
Je vais en parler.
Ouais, alors le Juice Crew, c'est compliqué. Il y a tellement d'histoires en fait sur le Juice Crew. Je sais même pas par où commencer. Tout simplement, déjà, on va commencer par dire que le Juice Crew s'est formé, c'est un collectif qui s'est formé autour de Marley Marl, qui est un producteur et qui a commencé avec Mr. Magic, qui était qui a lancé la première émission 100% rap d'une radio new-yorkaise qui s'appelait Rap Attack. Mr. Magic, un de ses surnoms, c'était Sir Juice, donc d'où le Juice Crew. Et donc, c'est vraiment un collectif pionnier parce qu'il y a eu plein des gars en fait. Il y a eu plein de gros rappeurs. C'est le premier collectif en tant que collectif, la différence entre un collectif et un groupe, c'est que là c'est que des rappeurs qui ont leur carrière individuelle mais qui forment une sorte d'ensemble, tu vois, qui collaborent tout le temps ensemble, mais ça reste chacun à leur carrière, quoi. Un des premiers trucs très importants et plutôt marrant en fait du Juice Crew, et surtout Marley Marl, en fait, c'est l'impression que le mec il en veut à la terre entière et il a eu envie d'embrouiller tout le rap game. Et genre en fait dès le début de sa carrière, il a produit un morceau pour sa copine qui a clashé Run DMC. Donc il prend le même son que Run DMC et il fait avec des nouvelles paroles où du coup tu vois Run DMC se fait clasher, quoi. Je sais plus comment c'était Sucker DJ ou quoi, un truc comme ça.
C'est ça qu'aux anciens directs, quoi.
Ah ouais, non, mais il a voulu en fait marquer son empreinte direct en disant ok, moi je m'attaque au boss, quoi.
Là on est quelle année à peu près pour situer?
Je crois que le premier 10 track, du coup, parce que ça s'appelle un 10 track, les morceaux comme ça pour clasher, c'était 84-85, quoi. À l'époque où Run DMC commençait à percer.
Ok.
Et après, il y a vraiment deux gros beefs. Les beefs, c'est pareil, c'est les clashs, on appelle ça des beefs, qui sont liés au Juice Crew. Donc il y avait d'abord les Roxanne Wars. Là aussi, c'est une histoire super drôle. En fait, c'était Mr. Magic, du coup, donc le pote de Marley Marl, qui devait faire jouer un groupe qui s'appelle UTFO dans son studio, je crois, ou je sais pas, en tout cas, il y avait un rendez-vous manqué et UTFO est pas venu. Et du coup, ils ont appelé Roxanne Chanté, qui était une jeune rappeuse, pour qu'elle fasse un diss track contre UTFO sur le morceau du groupe UTFO qui s'appelait Roxanne. Et du coup, elle a fait Roxanne Chanté a sorti le morceau Roxanne's Revenge. Et après, il y a des millions de sons qui ont suivi, qui ont perpétué cette sorte de guerre. Il y a eu genre, en fait, dans le camp d'en face de UTFO, il y a eu plusieurs rappeuses qui ont pris le rôle de The Real Roxanne. Et je sais pas, je trouve ça trop drôle comme truc.
Donc, est-ce que c'est les premières rappeuses aussi qui arrivent, ou il y en avait déjà avant? Dans la première émission, on en a pas trop parlé, puis on avait peut-être...
Je pense que c'est pas les premières rappeuses, tu vois, mais après, c'est vrai que Roxanne Chanté, je pense que c'est vraiment une des premières rappeuses à marquer vraiment son temps et ouais, vraiment à se faire un nom, quoi. Donc il y avait les Roxanne Wars, première série de bataille. Ensuite, il y avait aussi les Bridge Wars. Du coup, ça, c'est une histoire plus de territoire. En fait, il y a un morceau qui s'appelait The Bridge du rappeur MC Shan, donc produit par Marley Marl. MC Shan, c'est... En fait, MC Shan et Marley Marl, ils viennent tous les deux du Queens. Et dans le morceau, il y a un truc un peu ambigu où ils disent oui, en gros, et plein de gens ont compris comme quoi le rap, ça viendrait du Queens. Ouais. Alors qu'en fait, ça vient du Bronx. Et il y a des mecs du Bronx qui se sont un peu offusqués de cette offense-là. Et notamment KRS-One, qui a donc lâché quelques réponses assez agressives, dont Momo va aussi un peu étayer ce que je dis.
Team KRS-One.
Et pour dire jusqu'à quel point ça a été... Ils se sont réconciliés seulement en 2007. Marley Marl et KRS-One ont fait un son ensemble, je crois.
Oui.
Genre histoire de dire que c'est fini, quoi, en 2007. Donc ça a duré quand même, tu vois, là c'était la fin des années 80, ouais, 20 piges, quoi.
Ouais.
Donc lourd, quoi. Donc voilà, donc le Juice Crew, déjà, pionnier pour cette histoire de beef, ils étaient là dès le début, ils voulaient s'attaquer à tout le monde. Marley Marl, en tant que producteur, il a influencé un peu tout le monde. Il a aussi, lui, imposé la figure du producteur comme au sens de beatmaker, en fait. C'est-à-dire que c'est pas le mec producteur. Avant, c'était le mec qui gère un peu le bail, mais qui s'occupe pas forcément du son en lui-même, quoi.
Ouais.
Là, Marley Marl, c'est un beatmaker. C'est lui qui fait la compo, entre guillemets, du son, quoi. Et aussi, il a sorti donc un album qui s'appelle In Control, qui est là aussi pareil le premier album de producteur où il y a plein de rappeurs qui posent et tout, genre c'est le producteur qui est la star, quoi.
Un peu l'ancêtre de DJ Khaled.
Voilà, on peut dire ça.
Et là, à ce moment-là, ils vendent des disques, ça marche, la renommée, c'est quoi? C'est dans les quartiers, c'est au niveau...
Non, ça a plutôt bien marché, ils ont leur studio qui s'appelle Cold Chilling. Après, c'est pas des succès, mais tu vois, ça, quand même, ça se fait un nom, ils attaquent un peu tout le monde, et ils sortent leur
C'est orienté film. Local, parce qu'ils s'adressent plutôt à un public new-yorkais ou...
Bah en fait ça dépend, après si tu veux, Marley Marl, l'album de son album avec tous les membres du Jusco, c'est je crois pas que ça ait eu un succès de malade. Mais c'est après en fait, juste pour revenir déjà sur Marley Marl, en fait, faut dire quand même que c'est un producteur très important. Il a influencé quand même tous les grands producteurs de New York, que ce soit DJ Premier, Pete Rock, Buck Wild, ces mecs-là, ils lui doivent beaucoup. Et après voilà, la renommée vraiment en fait, elle vient plus des carrières individuelles, tu vois. Et là, bah tu vois, y a dans les rappeurs, il y a Biz Markie, Big Daddy Kane qu'on a écouté, Kool G Rap, Masta Ace, Craig G, Tragedy Kadhafi.
Que des gros noms.
Que des très gros noms. Tu vois, après, il y en a d'autres qui sont moins connus, mais globalement, il y a tellement de gros noms qui viennent de là, quoi.
On vous fera, on essaye maintenant aussi de faire attention à bien vous balancer des liens avec les noms, etc., pour être un peu plus complet.
Ouais, de référencer un peu les trucs, ouais.
Parce qu'ils disent que c'est des gros noms, mais tout le monde ne connaît pas forcément.
Oui, c'est vrai. C'est même, tu te dis que c'est des gros noms, mais après coup, sur le coup, tu te dis pas.
Oui.
Tu sais, il y a
oui.
La postérité qui joue après.
Donc, je vais juste revenir un peu sur les trois plus gros noms de ce Juice Crew. C'est Big Daddy Kane, donc en premier, qu'on a écouté tout à l'heure, là. Alors lui, c'est vraiment, il a un peu tout le bagage, quoi. Alors, il est grosse technique, en termes de flow, de rapidité, complexité des rimes, ça, il est top. Une petite voix suave, tout ça qui nous fait un savant cocktail. Il avait aussi ce personnage de rappeur playboy. C'est-à-dire que c'est le premier rappeur qui était aussi bien écouté par les mecs que par les meufs. Voilà, donc deux albums hyper classiques, Long Live the Kane, It's a Big Daddy Thing. Voilà, si vous avez kiffé le morceau qu'on vous a mis, foncez, c'est assez ouf. Il y avait Kool G Rap aussi, qui là aussi c'est très très lourd, très très grosse carrière, très très gros héritage. Lui aussi c'était un des premiers rappeurs vraiment hardcore, bien street, mais aussi très technique. Il était connu pour ses multisyllabiques, donc des rimes avec plusieurs syllabes qui riment, quoi. Ce qui est marrant, c'est qu'il avait grandi avec le producteur Eric B, que dont Momo aussi va parler après pour son duo avec Rakim. Et Kool G Rap, il était pote avec Eric B. Et Eric B lui a fait connaître DJ Polo, qui sera son acolyte, et qui va donc l'accompagner sur ses premiers disques. Donc là, pareil, vraiment, trois premiers disques avec DJ Polo, vraiment que des gros classiques. Après, il se lance en solo. Et voilà, enfin, énorme héritage de Kool G Rap. Je crois que c'est Kool Moody, on est un rappeur connu des années 70-80, des premiers rappeurs, qui disait que c'était probablement l'influence principale, une sorte de prototype de Notorious et Jay-Z, quoi. Et je trouve que c'est pas forcément... C'est plutôt juste. Enfin, le dernier sur lequel je vais revenir, c'est Masta Ace. Lui qui est le personnage un peu plus cool, qui est arrivé, qui était super jeune. Et lui, il a très vite adopté un personnage de vétéran. Et il s'est entouré de genoux et tout, et il avait cette figure de vétéran qui se foutait un peu de la gueule des fake gangster rappers, comme ils disaient, c'était ceux qui se prenaient pour des gangsters mais qui étaient rien du tout. Et voilà, enfin il a ce personnage un peu de sage que je kiffe bien, et je le conseille à tout le monde. Ces deux albums qu'il a sortis quand il était pour le coup vraiment plus âgé, dans les années 2000, c'est Disposable Arts et Long Hot Summer. Deux albums qui sont incroyables, quoi, vraiment incroyables. Donc voilà, Masta Ace, grand rappeur, et du coup on va
s'écouter The Symphony de Marley,
qui est vraiment le premier pussycut, c'est-à-dire le son avec tout le monde qui rappe, un énorme crew, ouais, c'est ça, ils sont tous là.
Ok, bah on s'écoute ça, on revient tout de suite.
À tout de suite.
De retour dans Deeply Rooted pour parler rap US, on vient de s'écouter The Symphony de Marley Marl, Jojo nous a parlé, et on va s'attaquer maintenant à un autre gros morceau, un autre pilier, qui appartient au patrimoine du hip-hop.
Ah ouais, tu fais bien de citer le mot hip-hop, parce que c'est plus que du rap, KRS-One. Donc vous avez compris, on va parler du petit KRS-One, qui est pas si petit que ça, pour vous refaire un petit historique du mec. Il est né à Brooklyn, puis il a un peu squatté dans le Bronx, c'est un mec qui a slalomé entre la rue, les foyers, parce qu'il a quitté les cours assez rapidement, donc il s'est retrouvé à côtoyer la rue en général, mais aussi les bibliothèques. C'était marrant, parce qu'il était attiré par le savoir, ce qui est très bien d'ailleurs. Donc bon, sa vie de rue l'amène à faire des petits deals, etc. Et il se retrouve à aller faire un séjour en prison, pour l'histoire. Et à la sortie de prison, il doit travailler avec un éducateur. Et comme la vie est bien faite, cet éducateur va être un mec qui s'appelle Scott LaRocque. Et Scott LaRocque va le prendre sous son aile et ils vont former un groupe qui s'appelle Boogie Down Production. C'est comme ça que tout ça commence. Et qui va devenir, ce groupe-là, Boogie Down Production, un peu le pionnier du gangster rap conscient.
Toi aussi, t'as travaillé ton accent anglais.
Hein. Ah ouais, mais c'est moi, c'est natif. Hein, depuis Constantine en Algérie, on apprend à parler anglais. Et je sais plus où j'en étais en l'occurrence, mais voici le gangster rap conscient. Ce jeu, c'est de me déstabiliser parce que je parle de l'ennemi du Juice Crew. Là,
le gangster rap conscient.
Bah, en fait, ouais, c'est marrant comme mélange, c'est-à-dire que c'est des mecs qui sont dans la rue, qui vont vous parler de la rue, mais qui vous font pas en glorifiant la rue. Quoi. Ils vont plus en parler en mode conseil en tant que grand frère.
Ouais, ils tirent des expériences de la rue, mais peut-être pour arriver à une autre conclusion.
C'est pas les conneries que j'ai faites. Quoi.
Ouais, exactement. Et donc ce côté street, bah, ça leur donne quand même une grosse crédibilité au micro et ça leur permet de raconter un peu le quotidien des rues de New York. Et à ça KRS-One, comme je vous le disais, bah, il a très tôt été attiré par tout ce qui a trait à la culture. Globalement, c'est un peu évasif de dire ça, mais c'est comme c'est un mec qui lisait beaucoup, il a été intéressé par la politique et il a tiré de ce qu'il a lu, bah, il a voulu mettre un peu de politique, prendre parti dans ses chansons. Et en l'occurrence, bah, ils vont sortir une première galette qui s'appelle Criminal Minded, qui va être qui va devenir un classique et c'est un mélange un peu entre les beats que va produire Scott LaRocque, où c'est un mec qui pioche un peu dans les Beatles, le rock, ou James Brown dans la funk, ce genre de choses, et KS1 qui va rapper, et lui c'est un mec plutôt fougueux au micro, donc c'est un mec qui déballe, qui rappe énormément. Et dans cet album-là, bah, il va sortir une chanson qui s'appelle « The Bridge is Over ». C'est en référence justement au Juice Crew, ouais. À cette histoire de Bridge Wars, de la guerre du pont, quoi.
Ouais, pour dire, le morceau, il les a un peu enterrés, et après derrière MC Shan, il a vraiment rené.
Pour dire que KRS-One les a fouettés sur l'instru, quoi. Mais ouais, clash les mecs d'en face, tu vois, ça reste pas dire bon enfant, mais on est encore dans une compétition de rap, tu vois, à ce moment-là. Et pas dans les écueils qu'on a de nos jours où ça se tire dessus, ça s'invente des vies bizarrement. Enfin bon. Et là pour le coup, ça s'invente pas de vie pour Boogie Down Production parce que l'album connaît un certain succès, mais Scott LaRocque se fait tirer dessus dans la rue, il meurt. Et on pensait que ça allait sonner le glas du duo, mais pas du tout parce que. Voilà, pour continuer, je vais pas dire pérenniser, mais voilà, pour porter le flambeau et continuer à rendre hommage à Scott LaRocque, KRS-One il va. Continuer l'aventure Boogie Down Production, il va intégrer son frère au groupe et ils vont sortir un album qui s'appelle By All Means Necessary, donc en français Par Tous les Moyens, dans lequel il va essayer de se positionner en tant que professeur de la rue. Il va être moins dans la rébellion, dans le vindicatif, il va plutôt être dans la position de pareil, peut-être de sage, tu vois. Il va être dans ce qu'on appelle l'edutainment.
Ouais, c'est ça.
On va vous divertir avec des chansons tout en balançant un message. Qui est positif, qui va t'éduquer, qui va essayer de t'élever spirituellement. Donc c'est encore dans la veine d'Africa Bambaataa qu'on avait vu, qui essayait justement d'élever spirituellement, intellectuellement la communauté afro-américaine. Et c'est très marrant d'ailleurs sur cet album-là, By All Means Necessary, il reprend une photo ultra connue de Malcolm X, c'est qu'il regarde par la fenêtre, sauf que lui il fait la même chose, et donc d'une main il tire le rideau pour regarder par la fenêtre, et dans l'autre il a un flingue. Donc c'est quand même, il y a quand même un message, même si c'est instructif, il y a quand même ce côté un peu violent, un peu street, quoi. Ce qui est drôle d'ailleurs au final, c'est que même s'il a ce côté-là, bah, il va créer un mouvement, enfin tout un truc qui s'appelle le Stop Violence Movement. Parce qu'à ce moment-là, genre les ghettos afro-américains, bah, c'est gangréné par la violence, les débuts des gangs, etc. Donc ils appellent ça le black on black crime, c'est des noirs qui tuent des noirs. On traduit littéralement,
ouais, il en a marre. Quoi, c'est toujours, ils se butent entre eux.
Ouais, ils se butent entre eux, quoi. Les mecs essayent pas de céder, ils se tirent dessus, et sur ce truc-là, il avait invité d'autres rappeurs pour rapper avec lui, justement, pour dire les mecs, nous on est de la rue comme vous, et venez, on arrête de faire ça, quoi. Voilà, donc ils vont continuer à sortir des galettes, le Boogie Down Production, mais KRS-One, il va commencer à en avoir marre des... Il va se positionner un peu aussi comme un mec qui aime pas le rap, comment dirais-je, le rap mainstream, genre ce qui est un peu populaire, enfin pas populaire au sens premier du terme, mais genre le truc qui plaît à la masse entièrement et qui ouais, est un peu galvaudé quoi, putassier, on peut dire c'est comme ça. D'ailleurs du coup à un moment, un concert, il attrape des chanteurs de R&B, il les vire de la scène pour reprendre le relais, rapper, lâcher les gros trucs durant un festival, et il va mal digérer justement l'avènement du côté du rap un peu putassier, R&B qui va arriver à ce moment-là. Il va se retirer, et il va revenir en 93 avec un album solo. Qui contient le
Return of the Boom Bap.
Ouais, The Return of the Boom Bap, produit par DJ Premier. Très gros nom aussi, DJ Premier, on y reviendra, je pense, dans d'autres émissions plus tard, parce que gros personnage aussi.
Et il y a une émission avec tout ça.
Ouais, et il va dedans avoir le son Poop, Poop, That's the Sound of the Police, que les gens ont déjà entendu, je pense, qui a été. C'est Assassin qui l'a, qui l'a samplé, enfin qui l'a repris, machin.
Dans la haine, ouais.
Voilà.
Mix d'Assassin.
D'ailleurs, KRS-One, il est dans la bande originale de Massive Attack aussi.
Ouais, il a collaboré avec
French Connection. Ah, oui.
Donc voilà, il va se lancer dans une carrière solo, commercialement. C'est, en fait, il prend tellement parti, et ce qu'il dit, c'est tellement pas particulier, quoi, mais qu'au final, je sais pas, il va s'attaquer au christianisme en septembre, dans le temps, donc il continue à rapper, il est dans le hip-hop, dans le mouvement, mais c'est un peu moins commercial. Donc Africa, KRS-One, ouais, gros personnage. Et je vais finir sur une citation de sa part qui disait que en gros le rap c'est quelque chose que tu fais, le hip-hop c'est quelque chose que tu vis. C'est clairement la définition de KRS-One. Et du coup on va enchaîner sur un petit son de KRS-One quand même.
On s'écoute quoi du coup?
The Bridge is Over, justement, oui, clasher les mecs d'en face.
Avec un flow jamaïcain particulièrement sympathique.
Très gros morceau.
Et après, on s'écoute Eric B et Rakim pour Let the Rhyme Hit 'Em.
Let the Rhyme Hit 'Em. Genre, en gros, laisse la rime les frapper, quoi.
Ok, et on se retrouve juste après. Vous êtes toujours dans Deeply Rooted, à tout de suite. On vient de s'écouter donc le son de KRS-One et ensuite Eric B et Rakim pour Let the Rhyme Hit 'Em. Et on va parler.
Tu t'améliores.
Merci beaucoup. Et on va justement parler d'Eric B et de Rakim avec Momo.
Yes, Eric B et Rakim, on va pas transiger, sûrement des plus gros duos de l'histoire du rap, si ce n'est le plus important, parce que je vais pas m'attarder sur comment ils se sont rencontrés. Autant KRS-One, ça avait un intérêt, parce que la rue, la culture, ça expliquait son rap. Là, ça n'a pas trop d'importance. Du coup, en gros, c'est la première fois que on a un duo rappeur rappeur et producteur DJ, où les mecs en gros c'est confondu, tu vois. Je veux dire, c'est l'un au service de l'autre et inversement. C'est pas
les deux étaient capables de.
Non, c'est plutôt dans le sens où tu vas pas dire que ça faisait qu'un seul personnage, mais le beatmaker, tout ce qu'il faisait, qui était Eric B, était au service de la rime de Rakim. Et Rakim, sur sa rime, il magnifiait le beat. Donc c'était un petit cercle comme ça, quoi. En gros, pourquoi est-ce qu'ils sont légendaires? Parce que Eric B, il était ultra talentueux, il maîtrisait aussi bien le sample, les scratchs, vraiment toutes les techniques du DJ qui l'a poussé à l'extrême. Et Rakim, en gros, il a transformé ce qu'on appelle le flow, qu'on vous a expliqué techniquement ce que c'était au début de l'émission. Mais
apparemment, il y a un avant et un après. Quoi.
Ouais, oui, il y a un avant et un après Rakim, parce que, en gros, à l'époque, au début du rap, le but c'était d'insuffler de l'énergie. On était là, tu clamais ton texte avec de l'énergie sur le son. Alors, je pense à Run DMC par exemple.
C'était pour des soirées aussi.
Oui, voilà, c'était différent.
À toute base, oui, c'est ça, c'était des ambianceurs de soirée.
Donc, t'écoutais pas ça forcément dans ton lit. Tu peux te faire réfléchir, quoi.
Non, effectivement. Et alors que Rakim, lui, il est parti à contre-pied, c'est un mec qui allait dans le flow limpide, il allait beaucoup moins vite, il y avait moins d'énergie dedans, mais genre la diction est parfaite, tu comprends tout ce qu'il dit, genre c'est limpide, il joue sur le beat, il a un flow doux, tout cool, tu vois, genre c'est, enfin, j'ai pas envie de faire de comparaison, mais ça me fait penser un peu à Shuriken, tu vois bien que Shuriken doit être inspiré de Rakim, c'est des mecs vraiment genre diction parfaite, tout cool, tu vois. Et donc ces deux-là sortent un album qui pareil est un classique que je vous recommande absolument, qui s'appelle Paid in Full.
Quelle année?
87, ça sort. D'accord. Et qui contient d'ailleurs le single éponyme Paid in Full. Et l'album a un énorme impact sur les contemporains et sur les générations futures aussi, parce que comme je disais, on est sur des productions, des prods, des beats avec des samples de soul, de funk, donc c'est très attaché à l'histoire du rap, notamment James Brown aussi. Et il y a Rakim qui est constamment dans l'évolution du flow et de la rime. C'est un mec qui commence à intégrer des multisyllabiques. C'est un mec qui fait. Avant, tu sais, c'était plutôt. On était sur la rime, c'était ouais, moi je mange du chocolat, blablabla, et je finis avec un A. Lui, il va faire des rimes au milieu de ses phrases. Il va faire peut-être enchaîner, genre, il va faire du ABBA, il va faire une rime, et il va finir avec la même, et entre deux, il va faire rimer deux autres choses. Donc il est.
Ouais, il va enrichir vraiment la technique du flow.
Ouais, carrément, et... il va même au niveau. En termes, c'est un mec qui est ultra métaphorique, tu vois. Donc là-dessus, en termes d'écriture et de flow, il va propulser le rap à un autre niveau.
Ça a été une base pour beaucoup de personnes. Bon, peut-être qu'aujourd'hui, les gens n'ont peut-être pas tous écouté ça, les rappeurs d'aujourd'hui. Mais...
Non, mais ils ont écouté les rappeurs qui ont les.
Ouais,
les, qui ont des rappeurs qui sont
ouais.
Joueurs,
ouais, c'est... Mais Eminem, c'est le premier à citer Kool G Rap, et il cite souvent Kool G Rap, Big Daddy Kane et Rakim comme des strumons absolus, quoi. Et donc voilà, tremblement de terre, on va dire, après cet album-là, Paid in Full, et ça va être suivi par un autre qui s'appelle Follow the Leader, qui est dans la même veine, on reste...
Peut-être moins novateur, mais qui est excellent, ouais, quand même. Hein,
qui est excellent, mais c'est juste qu'il y a moins de surprises, parce que moins novateur, mais on reste toujours sur des grosses, des belles prods de Eric B, un flow léché d'Rakim, on est sur de l'ego trip, comme on le disait tout à l'heure, donc ça vante ce qu'on est capable de faire. Suite à ça, donc entre 87 et 92, en gros, ils vont sortir 5 albums et après, ils vont prendre un chemin solo. Mais ils vont pas se remettre à rapper tout de suite parce que ils ont eu de démêler avec la justice, en fait, entre eux. Ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord. Et du coup, ça a fait traîner le processus artistique. Mais Rakim, lui, va reprendre une carrière solo en 97. Donc, 4-5 ans plus tard, il va sortir son premier album qui s'appelle The 18th Letter, donc la 18e lettre. Mmh. Il y a tout un truc autour de ça dans l'album. Tuerie absolue des années 90, pareil, je recommande seulement, Rakim, j'ai pas commencé le rap en écoutant ça, mais c'est un monstre, quoi. Et voilà, donc en termes de flow et de prod, cet album là est top, il va en sortir d'autres après, des albums, et
Légende, c'est un monstre, ouais. Lui, Big Daddy Kane et Kool G Rap ont vraiment révolutionné.
Ouais, c'est des noms qu'on peut citer, des rappeurs modernes, parce que c'était la thématique en gros de la...
Voilà, après comme d'habitude on peut pas forcément tout couvrir, déjà New York c'est un énorme morceau. Vous avez d'autres noms à...
Bah, il y avait Slick Rick qu'on a mis au début, qui lui avait apporté son truc du storytelling. Slick Rick, il avait aussi un énorme charisme, il avait un peu ce personnage, il a une voix un peu de cette toute douce, ouais. Toute fluette et tout, mais genre en fait c'est un gros thug. Et je crois que c'est quand même un des rappeurs qui a le plus influencé Snoop Dogg, ouais. Notamment.
Et c'est un mec qui était ultra samplé dans le hip-hop.
Ouais. Non, mais bon, l'album, je sais plus comment il s'appelle, The Adventures of Slick Rick, je crois, le truc qui sort en 88, ou un truc comme ça, et c'est un gros classique aussi. Il y a MC Lyte, qu'on n'a pas dit, qui était aussi une des premières aussi rappeuses qui a bien percé et qui était très très technique aussi. Je recommande à tous d'écouter, c'était très très lourd. Et je sais pas si on. Je pense qu'on a plus ou moins fait le tour.
Ouais. Bah, au pire, on balancera.
On
n'a
pas parlé de Public Enemy parce que c'est un autre délire. C'est pas trop dans le. C'est la même période, mais c'est pas du rap très très technique, etc.
Donc... Ouais, là, on voulait vraiment un peu axer là-dessus. Et donc, justement, avec une petite partie plus sur l'aspect technique, donc sur le flow aujourd'hui. N'hésitez pas d'ailleurs à faire des retours si ça vous plaît, ce genre d'approche aussi. On n'hésitera pas, on le refera avec plaisir. On vous balancera des choses pour compléter l'émission. C'était le deuxième volet de New York, donc il reste beaucoup, beaucoup de choses à voir. On vous donne rendez-vous à la rentrée, donc en l'émission de septembre.
Septembre, ouais.
Là, il y aura deux rediffusions cet été. Septembre, on ne sait pas encore, on va se pencher sur l'émission cet été, voir ce qu'on peut vous proposer, mais on a des bons trucs en stock. On a de quoi envoyer encore largement du lourd. On reviendra sur New York, forcément, il y aura des épisodes par-ci, par-là. Mm-hmm. Après, on ne voulait peut-être pas faire forcément 10 à la suite. Mais là, normalement, vous avez balancé suffisamment de disques pour vous donner une idée.
On vous a nourri, là.
Ouais, voilà. Vous avez de quoi écouter cet été. On continuera d'ailleurs aussi avec les playlists.
L'entertainment, comme dirait
Kers. On continuera à balancer des playlists aussi pour vous enjailler cet été, en général. Ouais, ouais. Les petites playlists de l'émission. N'hésitez pas à aller, donc, si vous aimez l'émission, liker la page Facebook, tout ça, nous suivre, nous donner de la force et aller écouter les podcasts précédents. On se quitte sur un dernier son, Momo.
Yes, Flava In Your Ear, remix, parce qu'on aime bien les remix aussi parmi nous. Et en fait, c'est annonciateur du futur de New York, où vous avez Craig Mack, Big L, Notorious Big, Rampage et Busta Rhymes qui rappent dessus.
Un petit échantillon de tous les rappeurs qui sont inspirés de ce dont on a parlé,
voilà.
Qui sont devenus des gros monstres.
Allez, on vous souhaite une bonne soirée, de bonnes vacances.
Et
on se retrouve à la rentrée.